Et sur France Inter, le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'apocalypse selon le GIEC. Inondations, malnutrition, caniculées, pénurie d'eau. Les experts climat de l'ONU dessinent l'avenir en noir. Dans leur prochain rapport partiellement dévoilé ce matin, détail dans un instant. Des crues torrentielles et brutales. Beauvais dans l'Oise, sinistré lundi soir. Houille dans les Yvelines inondées hier matin. Est-ce le changement climatique? En tout cas, ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Régional deuxième tour, les qualifiés en campagne, celle de Laurent Wauquiez continue sur le thème de la sécurité en Auvergne-Rhône-Alpes, on va l'entendre, avant d'écouter votre invité dans 20 minutes, Nicolas, qui a presque grondé ses électeurs, qui ne sont pas allés voter dimanche.
La présidente du Rassemblement National, députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, au micro d'Inter, vers 8h22-23, vous pourrez dialoguer avec elle, toutes vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000, le standard vous attend.
Quand la Chine-Afrique remplace la France-Afrique, illustration et édifiante au Sénégal, dans ce journal où un data center flambant neuf vient d'être inauguré grâce au financement chinois. Et puis à la une ce soir, France-Portugal. En clôture du premier tour de l'Euro, la France est déjà qualifiée, mais son résultat sera capital pour la suite.
France Inter.
Son dernier rapport en 2014 était déjà terrifiant. Celui qui sortira l'an prochain l'est encore plus. Les experts du GIEC ont une nouvelle fois mesuré l'impact du changement climatique d'ici 30 ans sur 4000 pages consultées par l'AFP. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Ce que nous dit ce rapport, c'est que le réchauffement a déjà des effets dévastateurs, mais que le pire est à venir.
La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. Cette phrase que citent nos confrères de l'AFP est issue du résumé du sixième rapport, 137 pages provisoires dont ils ont pris connaissance. Attention, rien ne dit que cette tonalité dramatique sera dans le rapport final. Néanmoins, on le sait, tenir un réchauffement de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle comme signé dans les accords de Paris semble déjà hors d'atteinte. Les scénarios des experts du GIEC vont du plus optimiste au plus pessimiste. Ainsi, dans 30 ans, si le thermomètre a pris 2 degrés, les chaleurs extrêmes vont continuer d'augmenter, les canicules reviendront tous les 5 ans, 420 millions de personnes supplémentaires seront affectées. Fonte des glaciers, de l'Arctique, eau souterraine réduite, le cycle de l'eau est déjà fortement affecté, est-il écrit. Inondations, montée du niveau des mers, les zones côtières sont en première ligne, or 60% de la population mondiale y vit.
Alors, autre projection terrifiante, Sophie, jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires seraient menacés par la faim d'ici 2050.
En effet, ça c'est dans le pire scénario, car ce bouleversement climatique qui a déjà fait baisser la production agricole de 4 à 10% ces 10 dernières années pourrait accentuer son impact, en particulier sur les cultures très consommatrices d'eau comme le maïs, sans compter les épisodes extrêmes qui amputent ponctuellement toute une récolte. Dans les océans, la raréfaction du poisson en cours pourrait atteindre à minima moins 40% dans les zones tropicales d'Afrique.
Est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, Sophie, est-ce qu'il reste un espoir?
Si l'AFP n'en parle pas, on sait que le troisième volet du rapport du GIEC est justement consacré à l'atténuation. Pour la première fois, les scientifiques, pour mieux éclairer la décision politique, ont pris en compte l'échelle régionale. Si on connaît mieux les impacts, il est plus facile de faire des choix pour s'adapter, réduire notre vulnérabilité. Cela implique des changements radicaux de mode de vie de l'humanité, une approche transformationnelle, selon le rapport, même si c'est encore à petite échelle, certains l'ont déjà entamé.
Sophie Becherel, merci. En attendant, on regarde le ciel et les sols et l'on s'interroge sur ces épisodes pluvieux de plus en plus fréquents. Ce mur d'eau dans l'Oise à Beauvais lundi soir, le lycéen de 17 ans emporté par la crue n'a toujours pas été retrouvé. Cette avenue transformée en rivière à Reims, où cette ville des Yvelines houille sous les eaux hier matin, son maire Julien Chambon redoute de devoir écoper de plus en plus souvent.
C'est à la fois des épisodes pluvieux exceptionnels qui sont de plus en plus réguliers. Ça veut dire que là, le 4 juin de cette année, vous aviez déjà des rues qui étaient inondées, des pavillons qui étaient inondés. Pourquoi ? Parce qu'on avait une pluie ventennale. Là, on est 3 semaines après. Je pense que la pluie, j'attends les mesures, soit les ventennales, soit les trentennales. Donc quelque chose qui arrivait tous les 20 ans, tous les 30 ans, arrive tous les 3 ans, tous les 2 ans. Ça s'est croisé avec le fait que le réseau d'assainissement de notre commune date des années 60. Il n'a pas prévu ces épisodes climatiques. Il n'a pas forcément été conçu aussi pour la ville qui se densifie. Et donc, ces deux paramètres font un effet ciseau dramatique qui fait qu'à chaque fois qu'il pleut beaucoup, on a une ville qui sature et qui, les Ovillois, se retrouvent les pieds dans l'eau.
Voilà, le maire de Houille avec Faustine Calmel, Valérie Pécresse, candidate en Île-de-France, s'est rendue sur place hier. Elle réclame la compétence inondation pour les régions concernant la gestion préventive dérive des sols. Aujourd'hui, l'Eure et l'Orne ont été placés en vigilance orange. Des candidats en campagne qui savent désormais à qui ils auront affaire dimanche pour le deuxième tour. Les listes ont été déposées. Tableau par région à consulter sur franceinter.fr. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura deux listes face à celle de Laurent Wauquiez, celle de l'écologiste Fabienne Grébert qui rassemble les gauches et celle du Rassemblement National d'Andrea Cottarac. Quant à Laurent Wauquiez, fort de ses 44% au premier tour, il ne change pas une campagne qui marche, manifestement axée sur la sécurité. Il était hier chez les policiers municipaux de Mézieux, près de Lyon, avec Christophe Vincent.
Ça a été des achats qui ont été accompagnés par le financement de la région. J'y suis très attaché parce que ce que je veux, c'est que vous soyez bien protégés quand vous intervenez.
L'éthylotest.
Oui. Laurent Wauquiez inspecte les tasers, questionne les policiers et réitère ses promesses. 320 millions pour la sécurité. La région financera jusqu'à 80% des dépenses des communes.
Ce que je ne veux pas, c'est que des mairies qui n'ont pas toutes des gros moyens se retrouve à devoir faire des arbitrages budgétaires pour la sécurité. La sécurité, c'est vraiment la première des libertés. Un maire qui y va, il aura la région à ses côtés pour aider à financer.
Laurent Wauquiez évoque d'autres thèmes, mais il revient vite à sa priorité.
On a encore eu hier des images à Lyon avec des gens qui se sont attaqués à des voitures au marteau. C'est juste pas possible. J'ai pas envie de voir s'installer dans notre région tout ce genre de choses.
Et il n'oublie pas de tacler ses adversaires.
Je vois bien la position qui est celle des élus verts et qui disent on va faire des cours de théâtre. Bon, ben moi je crois à la prévention, mais je pense pas que vous arrêtez les trafiquants de drogue avec des cours de théâtre. Face à l'insécurité, il faut mettre des effectifs de police pour pouvoir protéger nos habitants.
Un sympathisant nous glisse. Sur ce thème, Laurent Wauquiez a relégué le candidat RN à 12%. Il enfonce le clou. À mes yeux, Christophe Vincent, France Inter.
Autre campagne, la présidentielle de 2012 et le procès Big Malion qui s'est achevé hier soir. Le jugement sera rendu le 30 septembre. Un an de prison dont 6 mois avec sursis ont été requis contre Nicolas Sarkozy. Quand un journal représente une députée noire en esclave avec une chaîne en fer autour du cou, c'est Valeurs Actuelles qui sera jugée aujourd'hui à Paris pour injures publiques à caractère racial contre Daniel Obono de la France Insoumise.
Il est 8h08, à peine plus de 10 000 malades Covid à l'hôpital, Florence, dont 1500 encore en réanimation.
Et oui, les jours passent et les lits se libèrent au fil de la décrue de l'épidémie. Il n'y a plus que 500 patients en soins critiques en Île-de-France où l'activité normale de l'hôpital reprend ses droits. Reportage à Saint-Joseph, à Paris, signé Véronique Julia.
Il n'aime pas les vacances scolaires, mais cette année, il passera son tour d'autant plus volontiers. Chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, Cédric Bruel ne partira qu'en septembre. En juillet, août, il veut que son équipe en profite au maximum.
C'est important qu'il se ressource, c'est important qu'il puisse aussi penser à autre chose pour revenir reposer à la rentrée. Donc là, si c'est un peu plus calme, il faut en profiter. Je partirai quand tout le monde sera parti. C'est une question d'exemplarité.
Depuis 2 semaines, ici, très peu d'entrées. Sur 20 lits de réanimation, il n'y a plus que 6 patients Covid. Le plus ancien est là depuis plus de 6 mois. C'est un contaminé du mois de décembre. Le dernier entrant est là depuis 1 semaine. Il était vacciné avec une seule dose. Brian Berthet-Delteil est médecin assistant. Peu à peu, le service se remplit d'autres pathologies. On sort de la routine. Et pour ce jeune médecin, ça fait du bien.
Ce plaisir, finalement, d'avoir retrouvé une stimulation intellectuelle avec des pathologies assez variées. Le Covid, au bout d'un moment, c'était très stéréotypé.
Pour l'instant, donc, on respire, mais sans crier victoire, car les vagues successives imposent l'humilité.
Il faut garder la mémoire de ce qui s'est passé. On a été pris plusieurs fois à contre-pied par ce virus. Probablement que d'autres variants peuvent émerger. Donc oui, effectivement, on reste extrêmement vigilant.
L'hôpital reprend son rythme de croisière, mais la crise a laissé des traces, avec des départs, de l'absentéisme aussi. Et pour Cédric Bruel, il faudra sans doute plus que le Ségur de la santé pour que soit reconnu tout le travail accompli.
Véronique Julia, et côté vaccination, les ados motivés, ils sont 365 000 à s'être fait vacciner en 1 semaine, soit 7% des 12-17 ans. Vaccin ou test négatif, sachez-le, le pass sanitaire sera demandé pour approcher les coureurs du Tour de France au départ et à l'arrivée des 4 premières étapes bretonnes, comme pour la présentation des équipes demain à Brest. Et ce, dès l'âge de 11 ans, le Tour de France s'élancera samedi. Quand la Chine supplante les investisseurs historiques de l'Afrique, on le sait depuis des années, en voilà un nouvel exemple au Sénégal qui inaugurait hier son premier data center, 1000 mètres carrés à la sortie de Dakar, un équipement à 150 millions d'euros pour un internet souverain grâce à la Chine. Inauguration sino-africaine suivie par notre correspondant Nathanaël Charbonnier.
La musique est africaine, mais les ordinateurs et les personnalités présentes sont chinoises. Un vice-président Afrique de l'entreprise Huawei, mais aussi l'ambassadeur chinois en personne, Han Xiao, venait dire toute l'affection qu'il porte à son ami africain.
Au nom du gouvernement chinois, mes sincères félicitations pour cette réalisation de la coopération sino-sénégalaise en matière d'information numérique.
Un ami généreux qui investit dans le numérique, dans les routes, qui offre des vaccins Covid et qui répond toujours présent aux demandes du président sénégalais Macky Sall.
Jamais la Chine n'a différé une demande que je lui ai faite. Tous les projets que j'ai soumis à la Chine ont été pris en charge et financés.
L'ami chinois qui se positionne sur un secteur clé de l'avenir, et ce au détriment de la France, de plus en plus absente, comme le souligne ce chef d'entreprise spécialisé dans le secteur.
La Chine se positionne de manière très stratégique en Afrique. Au même moment, on voit un recul surtout de la France, petit à petit en laissant le champ ouvert aux Chinois. Dans d'autres pays, il y a aussi les Russes. Ça veut vraiment dire beaucoup de choses.
Et ça veut dire notamment que ceux qui souhaitaient la fin de la France-Afrique peuvent se rassurer. L'avenir s'écrira plutôt ici, en Chine-Afrique. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et puis c'est aujourd'hui que l'Europe devrait valider le plan de relance de la France. 100 milliards d'euros financés à 40% par Bruxelles. Emmanuel Macron recevra la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avant de toucher 5 premiers milliards cet été. France-Portugal, l'affiche rappelle celle de la dernière finale de l'Euro perdue par les Bleus il y a 5 ans. Ce sera la dernière du premier tour de l'Euro ce soir à 21h à Budapest. Bonjour Alexandre Vaux.
Bonjour Florent.
La France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, ce qui ne veut pas dire que le match de ce soir sera sans enjeu. De son résultat dépendra le prochain adversaire des Bleus.
Oui, en cas de victoire ce soir, les Français seront assurés déjà de terminer premier de leur groupe et de jouer un adversaire plus abordable sur le papier en huitième de finale, à savoir la Suisse ou l'Ukraine. Ce sera lundi, cette fois à Bucarest, en Roumanie. En revanche, si les Bleus terminent deuxième, là ça se complique, ils joueront alors l'Angleterre à Londres à domicile mardi, et s'ils perdent ce soir et qu'ils finissent troisième de leur groupe, ils seront opposés à l'un des favoris de l'Euro, à savoir la Belgique ou les Pays-Bas, et là ce sera dès dimanche respectivement à Séville ou Budapest.
Alors voilà pour l'enjeu, quelle est l'ambiance à Budapest à quelques heures du match ?
Chaude, Florence. On annonce encore 30 degrés au coup d'envoi ce soir. La capitale hongroise, où la langue officielle est le français depuis hier, plus de 7500 supporters. Ce sont les chiffres officiels de l'UEFA, attendus ce soir dans l'incandescente Puskás Arena. Un match devenu une affiche depuis la dernière finale en 2016, perdu face aux Portugais au Stade de France. Souvenez-vous, 1-0 en prolongation, un souvenir douloureux pour les Bleus. Il y a donc clairement de la revanche dans l'air ce soir face à la bande du quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, dont il faut toujours se méfier.
Alexandre Vaux à Budapest pour France Inter, de la revanche dans l'air avec un enjeu plus fort pour le Portugal qui a perdu 4-2 face à l'Allemagne samedi dernier, qui n'est pas encore tout à fait qualifié, d'où la tension qui monte chez les supporters portugais. Reportage en immersion, signé Delphine Evenou.
Le Café du Château, c'est le bar des supporters portugais à Paris.
On a les drapeaux de Portugal, on a tout ici.
On est équipé pour que ça soit une belle fête.
César, le patron, est un fan de football, un vrai.
J'ai passé des nuits en blanche, sans dormir à cause d'une défaite.
Ce soir, sa femme et ses enfants viennent donner un coup de main, car comme à chaque fois qu'il enfile le maillot rouge et vert...
Je ne peux pas travailler, je ne vois plus rien. Je n'arrive pas à parler avec les clients, pendant le match.
Devant l'écran géant de son bar, il y aura Hermano.
Moi, j'ai viré tous les rendez-vous à partir de 19h.
Pour
la finale avant la finale. Depuis 2016, et le fait que le Portugal soit encore champion d'Europe à cette heure-ci, fait que chacun des matchs avec la France a toujours un caractère un peu particulier.
Et le fair play tricolore n'est pas toujours probant, peste en souriant Luciana.
En France, on vit une espèce de sentiment de condescendance. Il suffit de voir n'importe quel match du Portugal contre n'importe quelle équipe sur une chaîne française. Il y a rarement des compliments.
Je pense qu'avec mes amis, on a tendance à tous rire du fait qu'on a tous un ami français qui a arrêté de nous parler depuis 2016.
Alors à 21h, Elsa compte prendre ses distances.
Je stresse beaucoup trop devant les matchs, surtout du Portugal, donc on va éviter de le regarder, c'est mieux.
Les messages des copains et les cris de sa famille donneront la température du terrain pour un match que ces franco-portugais espèrent être une répétition générale avant la finale.
Voilà, et prière de ne pas passer devant l'écran ce soir à partir de 21h sous peine de tacle très, très peu footballistique. enfin, sachez qu'à Tokyo cet été pour les JO, ce sera pas du tout la même ambiance. C'est ce que viennent d'annoncer les organisateurs qui ne veulent pas que les JO ressemblent à l'Euro. Pas d'alcool, pas d'embrassade, pas d'acclamation, pas d'autographe.
Pour les spectateurs des Jeux. Ce sera vraiment voilà. Participer au Exactement. Minimum. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Marie-Pierre, le ciel est gris, hein, mais plus calme ce matin.
Oui, enfin, on va dire que c'est un peu plus automnal qu'estival, avec des grisailles, Nicolas, et des brumes, et quelques pluies des Pays de la Loire, à la Normandie, à la région parisienne, aux Hauts-de-France, avec les départements de l'Eure et de l'Orne placés en vigilance crue. En revanche, le temps reste instable, avec des averses orageuses du sud-ouest au massif central à la Franche-Comté. Vous avez pu voir le soleil se lever, par contre, sur les côtes de la Manche, de la Bretagne au Cotentin, et comme hier, des Alpes à la Côte d'Azur, à la Corse, jusqu'au golfe du Lion, où la Tramontane se lève, sous un mercure très doux, hein, avec 19 à Perpignan, 21 à Nice, grand écart avec les 7 degrés relevés sur la pointe du Finistère, 8 à Mende, puis en Velay, vous avez 12 à Lille, 13 à Paris, 15 à Lyon et 16 à Strasbourg.
Et de nouveaux orages cet après-midi.
Et oui, rebelote sur un axe allant du sud-ouest au massif central, aux Alpes, au Jura ainsi que sur les Pyrénées. En revanche, près des côtes de la Manche, des côtes d'Armor à la côte d'Opale, vous profiterez de très belles éclaircies, mais le ciel va rester chargé des Pays de la Loire au bassin parisien, aux Ardennes, et ça restera estival autour de la Méditerranée avec sur le relief Corse quand même un risque d'orage, et en journée ça va remonter de 1 ou 2 degrés. Il fera 15 sur le Cotentin, 18 à Paimpol et à Lille, 19 à Rouen, à Nantes comme à Aurillac. On attend 20 à Paris comme à Bayonne, comptez 22 à Nevers et Bordeaux, 26 à Besançon et Perpignan, ça va monter à 29 à Arles et 30 à Marseille et Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Vous écoutez France Inter, il est 8h17.